Voici un enseignement donné dans le cadre de l'Église réformée baptiste de Neuchâtel. Avant d'entendre cet enseignement, vous entendrez, en principe, la lecture de textes bibliques, fondement infaillible de ce qui sera ensuite prêché avec l'humble désir que cela soit profitable dans la main de Dieu pour toute personne qui l'écoute.
Pour la prédication appropriée à cette circonstance d'envoi en mission, nous lisons quatre textes du Nouveau Testament, deux dans les Évangiles et deux dans le livre des Actes. Nous commençons dans Matthieu 28, les versets 18 à 20. La fin de cet évangile de Matthieu. Matthieu 28, 18 à 20. Jésus s'approcha et leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Nous avançons d'un évangile, Marc, et aussi à la fin, Marc 16, 15 à 16. Marc 16, 15 à 16. Jésus se montre aux 11, puis il leur dit, « Allez dans le monde entier et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé, sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas, sera condamné. » Et nous avançons un peu plus, cette fois jusqu'au livre des Actes. Premier chapitre, les versets 6 à 8. Acte 1, 6 à 8. Les disciples sont réunis avec le Seigneur. Eux donc, réunis, demandèrent, « Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume pour Israël ?» Il leur répondit, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Et nous avançons d'un chapitre, acte 2, et nous lisons les versets 37 à 47. C'est au jour de la Pentecôte, après le discours de Pierre, le début de l'Église. Acte 2, 37 à 47. Après avoir entendu cela, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Frères, que ferons-nous ? » Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Et par beaucoup d'autres paroles, il rendait témoignage et les exhortait en disant, « Sauvez-vous de cette génération perverse !» Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, furent ajoutées environ 3 000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de signes par les apôtres. Tous ceux qui avaient cru étaient ensemble et avaient tout en commun. Ils vendaient leurs biens et leurs possessions et ils en partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Chaque jour, avec persévérance, ils étaient au temple d'un commun accord. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec allégresse et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et obtenaient la faveur de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Et merci à notre pasteur Timothée de s'être préparé pour nous prêcher la parole de Dieu. Merci Timothée.
Avez-vous déjà vu une marionnette à fil ? C'est vieux. Ben, c'est en tirant les fils qu'on la fait bouger, ok ? Si il n'y a pas de fil, elle sera inerte et ne bougera pas. Jamais. Comme l'intelligence de notre cœur a besoin d'être guidée par le Saint-Esprit. Nous comptons sur son œuvre encore ce matin en ouvrant sa parole pour être guidés par lui. Et ma prière, c'est qu'il agisse dans nos cœurs ce matin pour sa gloire. Alors, nous ne vivons pas un dimanche habituel et pourtant nous vivons un dimanche ordinaire. Ben oui, c'est le rappel de la résurrection de Jésus-Christ, comme chaque dimanche. C'est le jour du Seigneur, selon Apocalypse 1:10. Nous vivons le culte devant l'Éternel comme une convocation à laquelle nous répondons avec une joyeuse soumission à celui que nous sommes venus adorer. Le Dieu trinitaire présenté dans la Bible, Père, Fils et Saint-Esprit, est celui que nous voulons adorer ici ce matin. Nous allons prier, chanter en l'honneur de Dieu, écouter la parole comme chaque dimanche. Mais nous n'allons pas continuer la prédication-exposition du livre biblique dans lequel nous sommes actuellement. Étant donné que c'est le dernier dimanche de la présence de la famille Rolock parmi nous avant leur départ en mission au Cameroun, ils partent en tant que missionnaires envoyés par l'Église et qui allons confier en fait la famille Rolock à l'Église Bethléem à Yaoundé. Nous allons donc avoir une prédication en lien avec la mission et nous nous arrêterons sur un texte classique pour la mission mais avec une approche qui est peut-être moins classique et pourtant pas moins biblique. Le titre de cette prédication, Jésus envoie construire son Église. Et nous nous appuierons sur Matthieu 28, 18 à 20. Vous vous rappelez peut-être que dans Matthieu 16, Jésus dit à ses disciples au verset 18, « Je bâtirai mon Église. Je bâtirai mon Église. » Et Jésus n'est pas homme à dire quelque chose et ensuite à l'oublier ou à changer de cap. D'ailleurs, Paul soulignera un peu plus tard dans le livre, dans l'Épître aux Éphésiens, que l'Église est une construction. Il y a déjà une construction qui est présente. Il utilise le terme « édifié » pour parler de ça dans le texte que je vais vous lire. Et Jésus est à la base même de la fondation. Écoutez ce qu'il est dit dans Éphésiens 2:20. « Vous avez été édifiés, vous pourrez dire construit ou bâti. » Sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre d'angle. Quand Jésus quitte ses disciples et qu'il leur transmet ce que l'on appelle le grand mandat missionnaire, c'est pour bâtir son Église. Toutes les épîtres qui sont les écrits du Saint-Esprit que nous avons dans le Nouveau Testament et qui nous aident à voir avoir une compréhension de l'œuvre de Christ, tous les livres même du Nouveau Testament après les évangiles nous parlent de l'Église. Et il s'agit d'églises, d'une Église réelle, des églises locales qui sont les incarnations de l'Église universelle de partout, de tous les temps qui forment le corps de Christ. Tous les livres du Nouveau Testament après les évangiles nous parlent de l'Église et il s'agit d'une Église réelle, des églises locales qui sont les incarnations de l'Église universelle de partout et dans tous les temps qui forment le corps de Christ. J'aime beaucoup Matthieu 28, 18 à 20. C'est le texte qu'on va prendre avec nous ce matin. Si vous voulez avoir vos Bibles ouvertes, c'est une bonne idée de les avoir à cet endroit-là. Et j'aime dire que c'est un sandwich en trois parties. Vous avez déjà entendu cette illustration de ce texte. De chaque côté, nous avons ce qui tient le contenu. On a d'un côté quelque chose qui tient le contenu et de l'autre côté, au milieu, le contenu. Imaginez un sandwich sans le pain du dessous et sans le pain du dessus. Ça sera assez compliqué à manger, ça peut se disperser, enfin voilà. Eh bien, comme pour avoir et manger un sandwich, il faut aussi avoir ce qui entoure et soutient le contenu. La mission confiée aux disciples a besoin de deux promesses de Jésus, deux réalités sans lesquelles il ne serait pas possible de vivre la mission. Et ce sera notre premier et notre dernier point aujourd'hui. Le premier, ce sera Jésus a tout pouvoir. Et le troisième, le dernier, Jésus est avec les disciples en mission. Et au milieu, au point 2, nous allons parler de la mission que j'intitule donc, comme le titre de la prédication, « Jésus envoie construire son Église ». Donc on va commencer par le verset 18. Pour le premier point, Jésus a tout pouvoir. Donc regardez dans vos Bibles, dans le verset 18, « Jésus s'approcha et leur parla ainsi, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Jésus a tout pouvoir. Comprenez ce que ça signifie? Jésus a tout pouvoir. Il est la tête d'un corps. Ce corps est organisé, les membres ne fonctionnent pas en autonomie. On pourrait dire aussi que Jésus est le cœur, la pompe du sang qui amène l'oxygène pour la vie de tout le corps. Jésus n'est pas une option ou simplement un distributeur de bienfaits. Non, Jésus est le moteur, la raison, la puissance, le but, la gloire de la mission. C'est le point focal. Mais ce n'est pas un seulement dans le sens limitatif, parce que Jésus a reçu tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Donc on peut commencer à se poser quelques questions. Qui a le pouvoir de donner la capacité à apprendre une langue ? Celui qui a tout pouvoir, Jésus-Christ. Qui a le pouvoir ultime de donner la capacité de lire? Celui à qui tout pouvoir a été donné, Jésus-Christ. Qui a le pouvoir ultime de transformer les vies de ceux qui lisent la Bible dans une langue qu'ils comprennent? C'est à celui à qui tout pouvoir a été donné, Jésus-Christ. Jésus, c'est le pouvoir de l'Évangile, si vous voulez, qui transforme les vies. C'est le point de départ et d'arrivée de la mission. Jésus est donc, on pourrait le dire, le pouvoir de l'Évangile. L'Évangile sans Jésus, il n'y a rien. C'est Jésus qui a tout pouvoir. Eh bien, c'est le point de départ et d'arrivée pour la mission. L'Évangile de Jésus-Christ qui a tout pouvoir, qui justifie, qui transforme les vies, qui fait entrer dans son royaume pour la gloire de son Père. Alors j'aimerais vous dire, chers Clint et Rebecca, de temps en temps je vous parlerai aussi ce matin, ça peut arriver, mais tout le monde écoute, c'est pour nous aussi. Mais chers Clint et Rebecca, j'aimerais vous dire que vous êtes au service de celui à qui tout pouvoir a été donné. Tout pouvoir signifie qu'il n'y a rien qui ne peut l'empêcher d'accomplir ce qu'il veut. Et il veut certainement que vous soyez utiles pour sa gloire et que vous grandissiez toujours plus à son image. En fait, vous pourriez même dire que vous êtes immortel tant que Jésus veut que vous viviez. Parce que tous les jours de votre vie sont inscrits. Et il a promis qu'il nous donnerait ce dont nous avons besoin lorsque nous cherchons premièrement son royaume, comme on le voit dans Matthieu 6, 33. nous et vous pouvons avoir des craintes de ce que vous pourrez vivre au Cameroun. Alors n'oublions pas que Jésus a dit lorsqu'il a envoyé ses disciples, « Tout pouvoir m'a été donné. » Jésus a tout pouvoir. Or, c'est quelque chose qu'on a sûrement déjà entendu, que l'on sait. Mais il ne suffit pas de l'avoir entendu et de le savoir. Il faut l'intégrer et laisser cette parole transformer notre façon de vivre et nous remplir jusqu'à déborder. Il y a des choses qu'on sait. Je vous dis, tout pouvoir a été donné à Jésus. Je pense que la plupart vous disent, bah oui. Qu'est-ce que ça signifie dans nos vies? Il ne suffit pas de le savoir, il faut l'intégrer, laisser cette parole transformer notre manière de vivre et nous remplir jusqu'à déborder. Et rappelons-nous, Jésus ne ment jamais. Jésus est Dieu et il a dit, tout pouvoir m'a été donné. Ça va, on va déjà prendre ça avec, hein? Mais on va continuer. Passons à un deuxième point qui sera aussi le plus développé. Jésus envoie construire son Église. On va relire les versets 19 et la première partie du verset 20 pour nous mettre dans le contexte, hein, dans ce que dit Jésus lui-même. Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit. Je dis déjà tout de suite, je ne vais pas tout développer ce qu'il y a dans ce texte. Il y a beaucoup plus que ce que je vais dire. Mais je vais simplement développer quelques éléments. Généralement, nous voyons trois parties dans ce texte. Vous les voyez aussi? Regardez. Allez faire des disciples, baptiser au nom du Père, du Fils et de l'Esprit, et enseigner à vivre ce que Jésus a enseigné. Jésus a clairement dit à ses disciples, et je le rappelle, on l'a vu tout à l'heure, « Je bâtirai mon Église ». Et nous pouvons déjà percevoir dans ces trois éléments qu'ils sont en lien avec l'Église, les trois. J'ai aussi réfléchi à ce qu'est un missionnaire. En fait, c'est quoi un missionnaire? Messager, pourquoi pas? Oui, c'est vrai, ça fait partie, hein? En fait, c'est un ouvrier de l'Évangile. Hein, l'Évangile qui transforme et ajoute à l'Église, en fait. Oh, j'ai quand même été juste regarder dans le Robert ce qu'il raconte sur le missionnaire. Des fois, il y a des choses intéressantes. Puis là, il dit ceci. Ah non, ce n'est pas le Robert. Ah non, c'est pour une autre définition. On viendra au Robert tout à l'heure. Désolé, je viens de vous faire penser que je parlerai de ça. Non, là, je vais plutôt vers la définition dans un livre qui parle de mission de Andy Johnson, qui définit un missionnaire comme suit. Je vous cite. « Un missionnaire est une personne reconnue et envoyée par une église locale pour faire connaître l'Évangile et pour assembler, servir et renforcer l'Église locale au-delà des frontières ethniques ou géographiques. » Donc la mission biblique est directement liée à l'Église. La première partie souligne « Allez, faites de toutes les nations des disciples ». Donc on réfléchit à cette première partie, « Allez faire des disciples ». Il n'est pas question d'individus isolés, mais de personnes qui sont transformées par la grâce de Dieu. Il est question de disciples, mais le terme disciple est forcément en lien avec celui de qui l'on est disciple. Le terme disciple est toujours lié à un maître, en fait. La définition du dictionnaire, là je suis allé dans le Robert pour le disciple, dit ceci, une personne qui reçoit l'enseignement d'un maître, une personne qui adhère aux doctrines d'un maître. Les apôtres reçoivent ici la responsabilité de faire des disciples de Jésus-Christ. Ce n'est pas des disciples d'autre chose, c'est des disciples de Jésus-Christ. Et les disciples de Jésus-Christ ne sont pas des croyants individuels sans lien les uns avec les autres. C'est au pluriel ici, hein. Donc les disciples de Jésus ne sont pas des croyants individuels sans lien les uns avec les autres. La parole les présente comme un corps. Les disciples de Christ, des disciples unis à Christ, forment le corps de Christ qui est l'Église. Donc les disciples de Jésus ne sont pas des croyants individuels, sans lien les uns avec les autres. La parole les présente comme un corps. Les disciples unis à Christ forment le corps de Christ qui est l'Église. Les disciples suivent en fait ensemble leur maître. Il n'y a pas plusieurs maîtres, il y a un maître. Et les disciples de Jésus forment un seul peuple. Faire un disciple, c'est le début de l'Église. Parce que, je l'ai dit, personne n'est appelé à vivre sa foi tout seul. Un nez ne peut pas vivre tout seul, comme une jambe, un bras ou une oreille non plus. Et le Saint-Esprit, par Paul, explique cela avec cette illustration du corps dans 1 Corinthiens 12, les versets 13 à 26. Un disciple fait partie du corps de Christ. 1 Corinthiens 12, 27, à la fin de cette explication, il est dit « Vous êtes le corps de Christ, vous êtes ses membres, chacun pour sa part. » La parole est très claire là-dessus. Et l'entrée dans ce corps est manifestée visiblement par un signe que Jésus a donné. C'est la deuxième partie. Aller faire des disciples. Donc on a compris que les disciples ont un seul maître. Donc en étant ensemble vers un seul maître, forment un seul corps et qui est donc l'Église. Et puis ici, un signe visible d'entrée dans ce corps, c'est le baptême, baptiser, deuxième partie, allez faire des disciples, baptiser. Et donc verset 19, il est dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et Jésus donne ici un ordre, il ne donne pas un conseil ou une idée à prendre ou à laisser. C'est important, il dit, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Personne ne peut dire qu'il est disciple de Jésus s'il a la possibilité de se faire baptiser et qu'il ne le fait pas. Il n'est pas un disciple obéissant à Christ et la désobéissance sans repentance mène au jugement. Celui qui est disciple du Maître Jésus-Christ obéit à son Maître. Il vit le baptême et le baptême est justement le signe visible de l'entrée dans l'Alliance et le peuple de la Nouvelle Alliance, c'est l'Église. Or certains me diront qu'il s'agit de l'Église universelle. C'est vrai, évidemment. Mais cette Église, dans le Nouveau Testament, est toujours manifestée visiblement par une Église locale dans laquelle les disciples de Jésus-Christ vivent leur foi commune. Il n'existe pas d'Église virtuelle. Il existe des Églises en devenir, où il n'y a peut-être qu'une ou deux personnes, évidemment. C'est dans le champ missionnaire, c'est ça qui arrive aussi. Mais c'est toujours une Église qui va grandir et glorifier Dieu. Jésus n'a pas prévu de foi solitaire, mais une foi solidaire. Jésus n'a pas prévu une foi individualiste, mais une foi personnelle vécue en communauté. Une communauté même déjà présente dans la Trinité d'ailleurs, qui est évoquée lors du baptême, puisque Jésus dit « baptisez les disciples au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, trois qui ne forment qu'un et un Dieu unique, vécu devant la communauté de croyants ». Vous allez me dire, bon, ce n'est pas toujours tout facile à comprendre toutes ces choses. Et cela demande du temps de connaître la Bible, de saisir qu'est-ce que ça signifie. Mais c'est justement ce que Jésus dit dans la suite du texte de Matthieu. Il dit dans la suite du texte, donc « Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit ». C'est la troisième partie du mandat de Jésus de construire son Église, enseigner. Nous avons lu le texte de Actes 3, 37 à 47. Nous avons vu Pierre qui met en pratique ce que Jésus a demandé en Matthieu 28, 19 à 20. Il annonce l'Évangile pour faire des disciples. Il indique le chemin pour devenir disciple par la repentance et la foi en Jésus-Christ qui est suivi par le baptême. On remarque d'ailleurs au verset 47, qui était le dernier verset que nous avons lu, que le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Ce qui nous montre très clairement que pour le Seigneur, sauver quelqu'un, c'est l'ajouter à l'Église. C'est ainsi qu'il construit l'Église. Et nous arrivons au verset 42 de ce texte de Acte 2, qui est un fondement pour l'Église. Acte 2, 42, beaucoup le connaissent peut-être par cœur, où il est dit « Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. » L'enseignement est vécu dans l'Église et c'est très important. Nous voyons l'exemple des Béréens qui reçoivent la parole avec beaucoup d'empressement et qui examinent chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. J'aimerais relever deux choses ici. Premièrement, c'est que l'examen de l'Écriture ne se fait pas seul. Cela suggère que l'importance de l'examen de l'Écriture en communauté. Et deuxièmement, pour examiner et enseigner les Écritures, il faut les avoir dans une langue que l'on peut comprendre. Bon, là, vous me voyez venir. Mais évidemment, pour examiner et enseigner les Écritures, il faut une langue que l'on peut comprendre. Et c'est justement là que nous voyons le rôle missionnaire de Clint et Rebecca, qui vont particulièrement travailler à ce qu'un nouveau peuple, par la traduction, puisse examiner les Écritures et être enseigné. Acte 2, 42 souligne le fait qu'il s'agit de l'enseignement des apôtres. Et cela, nous l'avons maintenant par le Nouveau Testament, qui est complet, terminé, suffisant et gardé par Dieu jusqu'à aujourd'hui. Lors de la Réforme, il a été souligné l'importance du sola scriptura, ça vous dit peut-être quelque chose, qui indique que l'autorité ultime est la Bible. Tout autre enseignement doit s'aligner à la parole de Dieu. Il est donc bon de l'avoir dans sa langue pour la connaître, pour pouvoir l'étudier et en être enseigné. Il a aussi été dit lors de la Réforme que le Saint-Esprit donne la capacité à chacun de lire et comprendre la parole à salut, pour trouver Jésus-Christ et le salut en Christ, et d'en être nourri. Mais ce qui n'a pas été dit à l'époque, c'est que chacun pouvait faire sa propre interprétation des vérités bibliques. Ça, c'est le solo scriptura, et ce n'est pas biblique. Pierre dira, par exemple, « Avant tout, sachez qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être l'objet d'interprétations particulières » dans 2 Pierre 1,20. Dieu a donné des ministères dans l'Église, les ministères de la parole dans l'Église. Et ces ministères, ces personnes qui sont dans ce ministère, sont soumis à l'Église aussi pour l'enseignement des disciples, pour construire son Église, pour édifier le corps de Christ, si vous voulez. Voici ce qui est dit dans Éphésiens 4, 11 à 15. Vous pouvez regarder avec moi. Il faut toujours vérifier ce que je raconte. Vous avez une Bible en français, ou en allemand, ou en anglais. Donc, utilisez-la. Utilisez-la. Éphésiens 4, 11 à 15. On reviendra, bien entendu, dans Matthieu 28 tout à l'heure. C'est lui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs pour le perfectionnement des saints, cela en vue de l'œuvre du service et de l'édification du corps de Christ. Donc quand vous entendez « édification du corps de Christ », c'est « je bâtis mon Église ». Donc je continue, ou je reprends au verset 12. « Pour le perfectionnement des saints, cela en vue de l'œuvre, du service et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. » Ainsi, nous ne serons plus des enfants flottants et entraînés à tout vent de doctrine, joués par les hommes avec leur fourberie et leurs manœuvres séductrices. Mais en disant la vérité avec amour, nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Alors si les apôtres et les prophètes ont posé le fondement sur la pierre angulaire qui a abouti au canon biblique, il reste les évangélistes, les pasteurs et les docteurs qui ont un rôle d'enseignement et d'accompagnement. Et selon l'Écriture, ils devraient le dispenser dans l'Église ou en vue de le vivre dans l'Église. J'espère que vous comprenez mieux un petit peu maintenant pourquoi j'ai intitulé cette prédication et ce point « Jésus envoie construire son Église ». Donc si on reprend Matthieu 28 maintenant, « Jésus s'approcha et leur parla ainsi ». « Tout pouvoir m'a été donné sur la terre. » Souvenez, important, hein ? On l'a vu avant. Ensuite, il continue. « Donc, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Donc après ce mandat d'aller construire son Église avec différents aspects, dont la famillerologue va faire partie aussi, eh bien nous arrivons à ce point très important ici que Jésus donne. Jésus est avec ses disciples en mission. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. La présence de Jésus est possible grâce à l'œuvre du Saint-Esprit qui a été annoncée. Il a annoncé à ses disciples quand il était dans la chambre haute, la dernière soirée où il était avec eux. Et dans Jean 16, par exemple, au verset 13 et 14, il leur dit à ses disciples, « Quand il sera venu, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car ses paroles ne viendront pas de lui-même, mais il parlera de tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. Lui me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. » Et c'est un moyen puissant de la présence de l'Esprit en nous qui manifeste la présence de Christ. Et j'aimerais que nous saisissions un tout petit peu, là on va un peu méditer ensemble sur cette partie « Je suis avec vous ». Je suis avec vous. Et là, premièrement, on voit que c'est son initiative. Je suis avec vous. C'est l'initiative de Jésus-Christ. C'est lui qui prend la responsabilité. C'est lui qui en fait la promesse. Cette présence auprès des disciples n'est liée en rien avec ce que nous pourrions faire, dire ou demander. C'est une promesse sans condition. Je serai avec vous, dit-il à ses disciples. Donc, premièrement, c'est son initiative. Deuxièmement, c'est une présence. Donc, je, ça fait son initiative, suis. Je suis une présence. Il est là. Et si nous ne ressentons pas toujours sa présence, cela ne change pas la réalité de cette présence. Il dit qu'il le fera et il tient parole. Et parfois, quand nous ne sentons pas la présence du Seigneur, et ça pourra vous arriver aussi en mission, c'est là qu'on va activer particulièrement la foi. Tu l'as dit, je le crois. C'est une réalité. Que je le sente ou pas. Et évidemment, nous prions que sa présence puisse être vécue aussi dans le cadre des sentiments, ce qui est souvent très rassurant, hein, c'est clair. Et remarquons que ce n'est pas n'importe quelle présence ici, mais c'est celui par qui tout a été créé et par qui tout subsiste. C'est lui qui dit qu'il est présent, celui qui a vaincu le péché et la mort pour ses disciples, à qui il a promis sa présence. Cela devrait nous remplir en même temps de crainte, c'est Dieu, du respect. Et en même temps d'une grande confiance. Jésus n'est pas un pote, c'est Dieu. Mais Jésus n'est pas distant, il est notre frère bien-aimé qui nous donne l'accès à notre Père parfaitement bon et bienveillant. Je suis avec vous. Donc premièrement, une initiative de sa part, deuxièmement, une présence, et troisièmement, c'est une prise de position en notre faveur. Je suis avec. Avec nous. Cela fait penser peut-être à un texte dans Romains qui vient assez facilement, hein, qui dit dans Romains 8, 31 et 32, que dirons-nous donc à ce sujet ? Si Dieu est pour nous, avec nous, qui sera contre nous ? Lui qui n'a pas épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi tout avec lui par grâce ? Donc être avec, c'est non seulement faire face aux ennemis, c'est aussi soutenir, encourager, c'est écarter toute solitude. Quand il dit « avec », un disciple ne peut plus jamais être solitaire. Il peut le ressentir. C'est vrai. Parfois, c'est difficile. Mais il ne l'est jamais. Parce que Jésus a dit, « Je suis avec vous. » Et quatrièmement, donc, « Je suis avec », ben là, vous me voyez venir, vous. Donc, c'est une présence qui rassemble. Une présence qui rassemble et une présence personnelle aussi. Avec vous. Si Jésus a une relation personnelle avec chacun de ceux qu'il sauve, chacun de ses élus, il est celui qui rassemble. Car si Jésus est avec une personne, il est aussi avec le disciple qui est à côté de cette personne. En fait, Jésus est en même temps avec chacun pour former un peuple, une église, son corps, lieu de sa présence, relié à la tête qu'il est, il est la tête. Il est le chef, le berger, l'architecte de son Église. Alors j'espère que nous avons un peu plus saisi ce que signifie « Je suis avec vous ». Et Jésus termine par cette promesse extraordinaire qui en même temps nous annonce qu'il y aura une fin à cette période que nous vivons depuis son ascension. Il dit « Je suis avec vous », donc c'est bon, on a ça avec nous, « tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Pas un jour ne manque dans son agenda. Pas un jour. Il n'oublie pas les années bissextiles, etc. Non, pas un jour ne manque dans son agenda. Pas une exception, pas un temps d'absence, pas de défaillance auprès de notre Seigneur. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alors j'espère avoir, avec ces quelques instants, avoir pu prendre avec vous le temps de mieux saisir encore ce texte de Matthieu 28, 19 et 20 qui est connu, mais qui doit être intégré et vécu. Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Un texte si important quand quelqu'un part en mission. Et je prie vraiment que chacun ici puisse comprendre l'importance de l'Église dans cette mission. Pour aller plus loin aussi dans cette réflexion, eh bien, si vous lisez l'anglais, n'hésitez pas à lire deux livres. Or, je les ai mis sur les petits papiers. Il y a les références. Hein. Prioriser la mission dans l'Église et prioriser l'Église dans la mission. C'est deux livres différents. Et si vous lisez le français, La mission comme comment l'Église locale doit atteindre toutes les missions de Andy Johnson est déjà une bonne piste de réflexion. Jésus a dit, tout pouvoir lui a été donné pour construire son Église ici dans cette région et au Cameroun. Et il nous fait une promesse extraordinaire. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Nous allons prier. Éternel, nous sommes dans la reconnaissance d'ouvrir ta parole, dans la reconnaissance de chercher à la comprendre, à la saisir. Elle est tellement riche, ce passage de Matthieu 28, nous pourrions prendre encore des jours ensemble pour faire ressortir tellement de vérités qui sont dans ce texte. Nous en avons vu quelques-unes. Et nous voulons, Seigneur, déjà premièrement te remercier parce que tu es un Dieu qui toujours, d'abord, nous rassure, nous encourage et nous donne des promesses de ce que toi tu fais pour ensuite nous envoyer faire ce que tu veux que nous fassions. Merci parce que ce texte nous rappelle que tu as tout pouvoir. Et dans un monde instable, dans un monde parfois difficile, dans un monde où on a l'impression de ne rien maîtriser, jusque même dans nos vies, il est bon et important de nous rappeler que tu as tout pouvoir. Permets-nous, Seigneur, de ne pas juste le savoir intellectuellement. Permets-nous, Seigneur, de le saisir profondément. D'une telle manière que, en apprenant à te connaître encore plus, eh bien, notre cœur déborde encore plus de confiance envers toi. Nous ne comprenons pas toujours tout ce qui se passe, Seigneur, tu le sais. Mais nous voulons te faire confiance, parce que tu as tout pouvoir. Et nous te remercions parce que lorsque tu envoies faire des disciples, baptiser, enseigner, eh bien, tu le fais en promettant ta présence. Et cette présence, ce n'est pas juste une petite carte qui est envoyée pour dire « Je pense à toi ». C'est une vraie présence. Tu es là. Et nous voulons te dire merci. Merci pour tous ceux que tu as déjà accompagnés. En étant ces témoins et missionnaires là où nous sommes, ici. mais aussi partout dans le monde. Merci pour tous ceux qui ont laissé derrière eux ce qu'ils auraient pu faire dans leur région natale pour aller annoncer l'Évangile, pour aller traduire ta parole, pour aller aider dans des situations difficiles et ainsi être des témoins de toi pour que ton Évangile puisse se répandre partout dans le monde. J'aimerais, Seigneur, te prier de nous donner un feu pour l'Évangile, que nous l'ayons ici afin que nous l'ayons partout. Dans le beau nom de Jésus-Christ. Amen.
L'enseignement est maintenant terminé. Si vous désirez entendre d'autres prédications ou profiter de ressources de l'Église réformée baptiste de Neuchâtel, n'hésitez pas à visiter le site www.erbn.ch. Que l'Éternel vous bénisse dans sa grâce.